9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est un tweet de Donald Trump, sans doute le plus lourd de conséquences pour une région du monde depuis le début de sa présidence. Un tweet accompagné d'une vidéo où le président américain annonce ceci.
We have won against ISIS, and now it's time for our troops to come back home.
Nous avons gagné contre l'État islamique et il est temps de ramener nos troupes à la maison. Un retrait de Syrie qui laisse le champ libre à Bachar al-Assad, à la Russie et à l'Iran, qui peut être dévastateur dans la lutte contre Daesh et qui laisse tomber les Kurdes, nos alliés dans le combat contre les djihadistes. Premier invité dans un instant, Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères, infatigable défenseur du peuple kurde. Cette semaine, en France, a été celle du RIC, référendum d'initiative citoyenne, devenu en quelques jours la revendication star des Gilets jaunes.
C'est que vraiment que ce soit le peuple qui ait la parole.
Avec le référendum d'initiative citoyenne, j'ai une idée de loi, je veux la proposer. Il y a un vote qui se fait avec les citoyens et voilà, notre parole sera porteuse.
80% des Français y sont favorables d'après les sondages. Mais d'où vient cette idée? Quelle serait la démocratie réelle vantée par ses promoteurs? Avec nous, la professeure de droit constitutionnel Anne Levade, qui ne croit pas à la promesse du RIC. Enfin, dans C'est arrivé cette semaine, un cinéaste qui continue de nous faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier, passion intarissable et réjouissante, à dévorer dans une nouvelle série de documentaires.
Quand même, quand Gabin, dans le cave, se rebiffe, a décidé qu'il ne quitterait pas la Normandie, qu'ils avaient quand même un prologue qui se passait en Amérique du Sud.
Gabin me donne toutes les bonnes raisons qu'il avait pour ne pas... tout ce qu'il pouvait penser en disant « Mais non, t'es expatrié, c'est de la folie, on peut faire ça très bien dans mon coin. » Et à bout d'arguments, il me dit « Écoute, n'oublie pas que passer la Loire, c'est l'aventure. »
Heureusement, ça s'améliore dès que Gabin arrive dans le bordel. À ce moment-là, le film devient un festival, sans doute l'un des chefs-d'œuvre du dialogue d'Audiard.
Je t'envoie un mec cette semaine.
Mais à quoi je le reconnaîtrai?
Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con.
Ça court les rues, les grands cons.
Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait à Sèvres.
C'est marrant que vous m'ayez reconnu tout de suite.
On m'avait fait un portrait parlé. Alors je pouvais pas me tromper.
Le CAF se rebiffe, extrait des voyages à travers le cinéma français, une série de Bertrand Tavernier qui vient de paraître dans un coffret DVD vivement recommandé au pied du sapin. Et Tavernier en défenseur du cinéma de patrimoine avec nous vers 9h35.
Europe 1.
Bonjour Bernard Kouchner.
Bonjour.
C'est évidemment l'événement de la semaine. Donald Trump a décidé seul de retirer les troupes américaines de Syrie. Un virage à 180 degrés qui va transformer en profondeur le rapport de force au Proche-Orient et dont les conséquences politiques et humanitaires devraient être considérables. On va y venir, mais d'abord sur les arguments de Trump. On l'a entendu, puisque nous avons vaincu Daesh, il est temps pour nos troupes de rentrer à la maison, a-t-il dit. Il a raison ?
Il a tort. Il a souvent tort. Là, il a particulièrement tort. D'abord parce que Daesh, l'État islamique, n'est pas mort. Il a quitter les villes parce qu'il a été battu militairement, par qui ? Par les Kurdes, aidés par les Américains, par les Français, par les Anglais, etc. Et non seulement l'idée de l'État islamique n'est pas morte, mais il y a encore des villages, il y a encore du terrain en Syrie, dans le nord de la Syrie, dans l'Est, qui ne sont pas dégagés, si j'ose dire, de l'État islamique et de tous les terroristes.
On parle de
Alors,
cellules dormantes.
Alors, il avait déjà dit ça une première fois, Donald Trump, qui retirerait ses troupes, mais une pression des généraux américains en particulier et de son secrétaire d'État à la Défense l'avait fait renoncer. Là, un beau matin, comme d'habitude, il fait un tweet et il change et il bouleverse l'état du monde. Ça nous apprendra à dépendre de lui. Mais surtout, ce sont les Kurdes qui vont, fois de plus, être battu, d'une certaine façon, on n'en sait rien, parce que ce qui est dangereux, mais vous allez certainement l'aborder, c'est qui menace les Kurdes.
On va venir aux Kurdes. Trump va peut-être, disent certains experts, et les Kurdes eux-mêmes, donner une chance à Daesh de se reconstruire, c'est possible ?
Oui, en tout cas, il lui donne une chance de se ressaisir. Je ne sais pas s'il se reconstruira. Se reconstruire, ça veut dire avoir un État islamique, ce qu'ils ont eu, et aussi d'avoir des villes importantes comme centre de regroupement et de direction. Non, je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais en tout cas, il n'a pas, nous n'avons pas vaincu complètement Daesh.
Par ailleurs, Trump laisse entendre que la bataille contre Daesh était la seule raison de la présence américaine en Syrie. Or, ça n'est pas le cas. Dans les discours américains, il y avait aussi l'idée d'endiguer l'influence iranienne et de faire pression sur le régime syrien. C'est important de le rappeler, Bernard Kouchner.
Vous avez raison, mais en même temps, comme on dit, ce sont les Turcs qu'on avantage. Ce sont les Turcs que Donald Trump avantage en fermant les yeux sur cette attaque prévue, dont d'ailleurs ne se sont pas fait mystère les Turcs, puisque M. Erdogan a dit qu'il allait attaquer les Kurdes en général. Et on peut dire que la compétition, s'il y en a une autre, il y en a plein au Proche-Orient, entre les Iraniens et les Turcs, est en faveur des Turcs pour le moment. Mais les Iraniens ont gagné beaucoup de terrain, c'est tout à fait juste, et en particulier avec leur allié syrien, M. Bachar el-Assad. C'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais en même temps, les seuls clairs, c'étaient les Kurdes. Ceux-là, on les a trahis.
On dit que Trump a pris sa décision après un entretien téléphonique, justement, avec Erdogan, le président turc.
Oui, on dit que c'était il y a quelques jours, d'ailleurs. C'était pas tout de suite, donc il avait prévu cela. Non, ce qui est vrai, c'est qu'une ville vient de tomber, la dernière qui était entre les mains de Daesh, des extrémistes, et que maintenant, il peut dire, puisque nous étions là pour aider la coalition internationale contre le Daesh, maintenant c'est fait, ce qui n'est pas complètement vrai, bien sûr, et nous pouvons nous retirer en comptant sur les Américains pour saluer leurs boys qui reviennent, et se sont très bien conduits d'ailleurs, et ils ont participé à la défaite partielle des Daesh.
Bernard Kouchner, invité de C'est arrivé cette semaine, on vous retrouve dans quelques instants pour parler justement des conséquences qui pourraient être terribles pour les Kurdes désormais après ce retrait américain annoncé.
9h-10h, C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Bernard Kouchner pour parler des conséquences de la décision américaine de retrait de Syrie, retrait qui pourrait ouvrir un boulevard à la Turquie avec de lourdes conséquences pour les Kurdes qui étaient, il faut le rappeler jusque-là, Bernard Kouchner, les protégés des Américains.
Oui, les Américains et nous-mêmes, nous nous servions des Kurdes, tous les Kurdes, mais en particulier pour cet dernier épisode, nous nous servions des Kurdes de Syrie qui avaient décidé de faire la guerre aux extrémistes musulmans, au Daesh, à l'État islamique, et qu'ils l'ont faite cette guerre, et qu'ils l'ont largement gagnée, aidée par la coalition internationale, dont les Américains. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a plusieurs niveaux. Avec les Kurdes, pour les Kurdes, qui avaient un projet d'État le long de la frontière turque, avec trois provinces, qui s'appelaient le Rojava, ils avaient un projet d'autonomie et de fédération avec M. Bachar el-Assad, qui est le maître de la Syrie, grâce à qui? Grâce à M. Poutine. Se retirant, les Américains laissent le champ libre à qui? D'abord aux Russes, d'abord à M. Poutine, parce que c'est lui qui décidera des choses. Alors, aura-t-il des préférences pour les Turcs, et en même temps, ménageant les Iraniens, il sera le maître? Je crois que c'est très possible. Qui est, en effet, le maître du jeu? C'est Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera assez, comment dirais-je, sensible pour être aussi l'homme de la paix? Il pourrait l'être. C'est le seul capable de laisser une chance aux Kurdes syriens. Est-ce qu'il le fera, disant ça suffit comme ça, maintenant nous avons dégagé le terrain, il n'y a plus d'Américains, nous sommes les rois de la Méditerranée d'une certaine façon. J'espère qu'il aura cette sagesse, je le crois à peine. Sinon, pour les Kurdes eux-mêmes, s'étant merveilleusement battu, et surtout les femmes kurdes. Parce que les Kurdes ne sont pas seulement, comment dirais-je, la chair à canon. Ils se battent très bien, ils sont très courageux, ils ne reculent jamais, mais surtout les femmes kurdes sont admirables. C'est elles qui, par exemple, ont vaincu à Kobané. Kobané a été la première, très proche de la frontière turque, a été la première ville à s'en sortir face à l'État islamique. Et donc, là aussi, il y a eu toute une compétition de bravoure. Mais dans cette compétition et dans ce dur combat, les femmes ont joué un rôle formidable. Il y a une vraie égalité, en tout cas pour la jeune génération, entre les hommes et les femmes au Kurdistan. Il y a un vrai début, en tout cas, d'une pensée démocratique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure à propos d'une fédération, qui s'opposerait ou qui compléterait, ce serait le mieux, ce que Bachar el-Assad, le maître de Damas et donc le patron de la Syrie, pourrait accepter éventuellement si M. Poutine lui demandait ou s'il y avait une influence dans ce sens. Pour le moment, les Américains se retirent, ils vont prendre plusieurs semaines, ils étaient plus de 2000 et surtout avec un gros matériel.
Pour les Kurdes, c'est une trahison.
Elle était prévisible, cette trahison, je ne dis pas ça pour faire le malin, mais entre les Turcs et les Kurdes, le choix de l'Amérique était quand même fait d'avance, surtout avec Donald Trump, qui le matin produit un petit texte au lever du lit pour changer la face du monde. C'est quand même très extraordinaire ce qui se passe, n'est-ce pas ?
Alors hier, Erdogan a réaffirmé sa volonté, a-t-il dit, de nettoyer le nord de la Syrie,
nettoyer
des djihadistes et des miliciens kurdes. Dans son esprit, on sait que c'est la même chose.
Oui, il faut expliquer aussi qu'il y a une rébellion kurde à l'intérieur de la Turquie. Et qui mobilise un certain nombre de gens qui ne sont pas loin de ce qu'était l'idéologie des Kurdes de Syrie. Autour d'un homme qui s'appelle Chalan, c'était pas une idéologie lointaine, c'était ce qu'ils affirmaient, c'était très marxiste-léniniste en son début, et maintenant je pense que c'était différent, que les Kurdes de Syrie avaient une idée de la démocratie et du développement de la société qui n'était pas la même. Enfin, on peut dire que j'étais optimiste, maintenant on savait très bien qu'avec une confrontation qui s'annonçait, les Kurdes seuls ne pourraient rien faire contre les armées turques. Maintenant, nous en sommes là. Alors, il y aura quelques semaines d'hésitation.
Et ensuite, le risque d'une guerre sanglante, c'est possible.
Mais il y a déjà eu une guerre sanglante. Oui, il y a déjà eu depuis longtemps. On ne découvre pas parce que Donald Trump a trahi, entre guillemets, parce que Donald Trump a décidé. Non, c'était depuis longtemps une confrontation avec... Vous savez, il y a un mur qui sépare la Turquie de la Syrie, là où sont les Kurdes, dans le Rojava. Et on savait très bien que l'animosité était grande. Il faut dire aussi, quand même, que ceux qui sont dans la montagne, c'est-à-dire les Kurdes de Turquie qui se battent contre Chalan, ceux-là avaient la sympathie des Kurdes de l'autre côté de la frontière. Alors, est-ce que c'est une situation tolérable pour un président ? Je ne les excuse pas, je condamne absolument M. Erdogan, mais il faut dire que c'était comme ça, stratégiquement.
Autre risque, Bernard Kouchner, les Kurdes détiennent des centaines de djihadistes étrangers, oui. Beaucoup d'Européens.
Oui, oui, c'est vrai, je les ai vus pour une part.
Qui risquent d'être relâchés.
Il faudrait que les Kurdes aient perdu, c'est pas exactement dans le même endroit de la frontière. Mais les Kurdes résisteront, c'est sûr, et il y en a beaucoup qui mourront, je les connais. Le danger pour ceux qui sont prisonniers, je pense surtout aux femmes, parce que les femmes ont des enfants, 3, 4, 5, et ceux-là sont innocents. Et donc, je ne sais pas ce qui se passera pour cela. Il y avait des possibilités en emprisonnant les femmes, en les faisant passer devant une justice qui était laquelle ? Est-ce syrien ? Est-ce kurde ? Il n'y en a pas. Est-ce turc ? Et les étrangers sont-ils ressortissants du pays dont ils provenaient ? C'est très vague, tout ça. En tout cas, les femmes peuvent être accusées de complicité avec ce qu'ont fait les hommes qui sont dans des camps ou dans des prisons différentes. Et il y en a beaucoup qui sont morts, d'ailleurs.
Que devrait faire la France ? La France qui a déjà reçu un appel au secours de la part des Kurdes, c'était hier.
Bien sûr, plusieurs fois. Et la France devrait faire entendre sa voix. Et puis, devrait, je crois, puisqu'il faut parler avec ses ennemis, influencer les Kurdes de Syrie, les influencer pour un dialogue qui serait forcément à travers les Russes et à travers Vladimir Poutine. Je crois que c'est la seule chance qu'ils ont d'éviter la confrontation brutale que, après une résistance dont je ne doute pas, les armées turques se montreront les maîtres.
Merci Bernard Kouchner d'être venu nous éclairer au micro d'Europe 1 ce matin.
Vous éclairer ? Je suis bien incapable de vous éclairer, vraiment.
Merci à vous. Europe 1. Dans un instant, on va voir pourquoi le RIC est devenu chic. 80% des Français souhaitent ce référendum d'initiative citoyenne. Mais la professeure de droit constitutionnel, Anne Levade, n'y croit pas beaucoup. Elle nous dira cela dans un instant.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Samedi dernier, dans les rues de Paris, auprès des quelques milliers de gilets jaunes qui avaient fait le voyage, c'était à croire qu'une seule revendication avait chassé toutes les autres. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, vieille marotte de quelques activistes, soudainement très présent dans les groupes Facebook des gilets jaunes, s'est imposé comme la demande la plus populaire, celle qui pourrait tout résoudre, en redonnant le pouvoir au peuple et même le pouvoir de destituer le président de la République. Bonjour Anne Levade.
Bonjour.
Professeur des universités, agrégée de droit public, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. D'abord le référendum, le recours direct au peuple pour légiférer et gouverner, c'est une idée qui vient de loin.
Oui, c'est une idée très ancienne, puisque c'est une des formes, j'allais dire parmi d'autres, de la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple.
Ça, c'est le principe, oui.
Déjà, dans la démocratie athénienne, on connaît des référendums, alors pas exactement organisés comme aujourd'hui, mais cette idée que ce sont les citoyens qui décident directement. Et sous la Ve République, finalement, plus que jamais auparavant en France, on a fait une place importante au référendum, puisqu'on peut l'utiliser pour réviser la Constitution et on peut l'utiliser pour voter des lois.
Alors, on laisse entre parenthèses le référendum instauré par la révision de 2008, procédure parfaitement inopérante et jamais appliquée, parce qu'il faut le soutien de 1/10 du corps électoral, soit 4,5 millions d'inscrits, mais ce sont les parlementaires là, hein, qui ont l'initiative.
Oui.
Il en faut 185, et pas le peuple.
Oui, c'était une formule un peu hybride qui avait été proposée à deux reprises, en 93 puis en 2007, finalement adoptée en 2008. Et effectivement, on parle d'initiative partagée ou minoritaire, parce que l'idée c'est que ce sont des parlementaires qui, n'arrivant pas à faire inscrire un texte pour le faire débattre à l'Assemblée, utiliserait en quelque sorte le soutien du peuple pour contraindre à la discussion sur le texte. C'est vrai que la formule pour l'instant n'a jamais été utilisée. Il faut rappeler aussi qu'elle n'est effectivement applicable que depuis le 1er janvier 2015. Parce que si la réforme date de 2008, il a fallu des textes pour en prévoir les modalités d'application et que donc finalement c'est une réforme qui est encore relativement jeune.
Mais 4,5 millions d'électeurs, c'est considérable. Effectivement, la barre est très haute. Alors l'idée de redonner l'initiative au peuple, en tout cas un groupe de citoyens pour faire ou défaire des lois, voire destituer des élus, voire le président de la République, ça suscite beaucoup de questions et beaucoup de questions à résoudre à Nevada.
Oui, l'idée en soi apparaît très simple, c'est-à-dire il s'agirait que les citoyens décident de se saisir eux-mêmes d'une question et de décider sur cette question. Dans la pratique, les choses sont beaucoup plus compliquées pour beaucoup de raisons. Alors on cite d'abord beaucoup les exemples étrangers. On n'a jamais autant parlé de la Suisse, oui. Ou à peu près. On parle aussi un peu de l'Italie, on parle de la Californie. Ce sont des États qui connaissent le référendum d'initiative citoyenne, mais dans des cas très particuliers. Je ne prends que quelques exemples. En Suisse, par exemple, l'initiative citoyenne dont on parle beaucoup, c'est pour réviser la Constitution. Et contrairement à ce qu'on laisse entendre, les citoyens proposent, mais ensuite c'est le Parlement qui élabore la révision. Et enfin, le peuple vote sur le texte élaboré par le Parlement. De la même manière en Italie, où il y a un système de référendum abrogatif qui permet donc de mettre fin à un texte de loi qui est en vigueur, il y a un seuil de participation. Si le référendum ne réunit pas au moins 50% des électeurs qui se déplacent pour aller voter, eh ben on a fait un référendum pour rien. Donc on voit bien que derrière cette idée, il y a un certain nombre de questions d'ordre technique, et ce qui aujourd'hui semble remonter de cette revendication des Gilets jaunes et le soutien que, dit-on, d'après les sondages, le peuple français lui apporterait, c'est que finalement ce serait la solution à tout, parce que l'on se contente de l'idée simple, mais que personne ne sait exactement comment ça fonctionnerait et surtout ce que l'on déciderait. Ça n'est pas la même chose d'adopter un texte, donc un référendum dont l'objet est positif, d'abroger un texte, donc au contraire de dire non. Et puis, bien sûr, de révoquer un élu. Là, on voit bien que les conséquences sont d'une toute autre nature.
Les revendications portées par le groupe le plus influent des Gilets jaunes sur Facebook avec Maxime Nicole, c'est assez large. Il y a donné au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution, de rédiger ou d'abroger une loi sur tous les sujets. Alors là, bon, c'est large, hein. Il n'y aurait pas de filtre et pas de limite. Dans une tribune parue dans l'Express cette semaine, vous évoquez, Anne Levade, le risque d'une démocratie du conflit permanent. Que voulez-vous dire ?
Ce que je veux dire, c'est que si on est dans une logique d'abrogation ou dans une logique de révocation, par définition, le risque, c'est que l'on conduise à un affrontement entre les représentés et les représentants, c'est-à-dire entre le peuple, les électeurs, et ceux qu'ils ont désignés. Pourquoi ? Parce qu'on a des représentants qui pourraient craindre en permanence de voir leurs décisions mises en cause, et donc soit décider de ne plus rien faire, ce qui évidemment est toujours le pire dans une démocratie, parce que là c'est l'immobilisme, soit au contraire, chaque fois qu'il prendrait une décision, se verrait de manière systématique contestée, soit parce qu'on mettrait en cause les lois qu'ils viennent de voter, soit parce que, évidemment, on les menacerait purement et simplement de les destituer.
C'est le risque d'un zapping permanent pour les décisions politiques.
Alors, j'observe, oui, c'est le risque d'un zapping. J'observe d'ailleurs qu'il y a quelque chose de paradoxal dans cette proposition, parce que une des difficultés techniques du référendum d'initiative citoyenne, c'est le temps que cela demande. Par exemple, si on recueille des signatures, ce qui est indispensable pour initier le référendum, il faut prévoir combien de temps on laisse pour ce recueil des signatures. Même si on prend le cas de la Suisse,
c'est un an et demi, je crois.
Voilà, il y a un certain nombre de mois qui s'écoulent, ça dépend des procédures, mais un certain nombre de mois qui s'écoulent. Ensuite, il faut évidemment faire une campagne sur un référendum pour que chacun puisse mesurer quel est l'effet. Donc ça veut dire qu'on retarderait un certain nombre de décisions, nécessairement de plusieurs mois. Ce qui est paradoxal parce que dans le même temps, on nous dit que les mandats des parlementaires et même du président de la République sont trop longs et que donc il faudrait raccourcir les mandats. Donc on voit bien qu'il y a cet enjeu derrière du temps de la démocratie et que finalement, comme ce mouvement des Gilets jaunes me semble pour partie explicable par le fait que les réformes adoptées n'ont pas encore produit de résultats, j'ai l'impression, moi, que cette question est absolument insoluble.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener ce type de référendum comme on mène des sondages sur Internet, simplement par un clic. C'est ça que vous dites, il y a des procédures et des temps à respecter.
À l'évidence, oui, à la fois pour que chacun puisse décider en toute sérénité et puis aussi pour pouvoir sécuriser le vote, bien sûr.
Bon, vous dites dans votre tribune de l'Express que RIC, ça pourrait se transformer en RIP, c'est-à-dire qu'on enterre la...
Repose en paix.
Repose en paix. C'est
oui.
Un pronostic ?
Ben, en tout cas, c'est une idée qu'on a à plusieurs reprises agitée. Je rappelle que Condorcet le voulait, le général Boulanger le voulait, et puis chaque fois, on a trouvé des raisons de ne pas le faire. On verra. Je pense aussi que c'est un piège, parce que si on met en place un référendum d'initiative citoyenne qui ne donne pas satisfaction à ceux qui le voulaient, finalement, le remède risque d'être pire que le mal.
Merci. Merci Anne Levade d'être venue au micro d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, cinéma avec Bertrand Tavernier qui va nous emmener dans ses voyages à travers le cinéma français. Formidable série, passionnée et passionnante.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour.
Il y a 2 ans, vous avez régalé beaucoup de cinéphiles avec votre voyage à travers le cinéma français. Un film de 3 heures foisonnant d'extraits en tout genre avec vos souvenirs d'enfance, vos découvertes d'adultes, vos coups de cœur, vos cinéastes, acteurs, musiciens, favoris. Mmh. C'était passionnant, mais voilà, la traversée n'était pas achevée. Les voyages continuent. Voici 8 autres films d'une série qui a été diffusée sur France 5 et que Gaumont vient de sortir en DVD avec vos... cinéastes de chevet, des connus, des moins connus, des oubliés, on va les citer, des chansons. Pour l'essentiel, ce sont des films d'avant la nouvelle vague, d'avant les années 60. Pourquoi est-ce si important à vos yeux de défendre et de faire vivre ce que vous appelez ce cinéma de patrimoine ?
Parce que j'aime le patrimoine du cinéma français, j'aime ces films. Ce sont des films qui m'ont donné des joies extraordinaires, que je revois monter ces 8 heures... Travailler, je ne sais pas, c'est 90 semaines de montage.
Ouais.
Ça a été des semaines de bonheur, d'angoisse, mais aussi de bonheur en revoyant 8 fois, 10 fois certains extraits que je trouve, mais à chaque fois formidables, passionnants et très, très actuels. Pour ouais. La plupart, c'est des films qui paraissent très actuels.
Ce que vous admirez, ce que vous nous faites admirer, c'est la modernité de ces cinéastes
oui,
et leur
oui.
audace.
Oui.
On va en citer quelques-uns, Jacques Becker, Max Ophüls, Jean Grémillon, Henri Decoin. Et par exemple, aussi, vous tenez Sacha Guitry, pas seulement oui. pour un grand auteur, mais aussi pour un grand cinéaste.
Mais écoutez, Guitry, il y a une preuve indéniable qu'il est un grand cinéaste, c'est que c'est le seul... alors que lui, en principe, c'est un homme de théâtre, qui va prendre une caméra et qui va aller filmer Rodin, Manet, qui va filmer
au début
Saint-Saëns.
Du cinéma, en 1915.
En 1915.
Ouais.
Il n'y a aucun homme de cinéma qui pense à ça.
Ouais, ouais.
Et Guitry pense ça. Et il va nous livrer les seules images qu'on ait d'Octave Mirbeau.
Ouais.
Les seules images qu'on ait de Rodin. Et on voit cette image bouleversante où un Auguste Renoir qui essaye de travailler avec des mains qui sont complètement détruites par l'arthrose. C'est un plan qui est complètement bouleversant. Donc cet homme de théâtre était en avance de 40 ans sur les cinéastes en pensant... Et c'est grâce à lui qu'on a ce document que je voulais, sur lequel j'insiste beaucoup, parce que ça témoigne d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité. On a toujours dit que Guitry était un égomaniaque, il parlait de lui, mais Guitry, il savait rendre hommage aux autres aussi. Il a fait ce film comme ça.
Guitry qui était aussi, et qui est connu pour cela... un cinéaste du verbe, comme oui. le dit Assayas, qui oui. le compare d'ailleurs à Tarantino. Exemple, Guitry attablé à une terrasse de café, s'adressant au serveur dans Le roman d'un tricheur.
Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais des individus qui ont 700 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi.
Ah.
Oui. Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire, il n'en a pas le droit.
Voilà, une tirade pas du tout politiquement correcte,
oui,
comme vous le soulignez.
Oui, oui,
effectivement, c'était gonflé.
Oui.
Un autre cinéaste du verbe qui vous touche particulièrement, c'est Marcel Pagnol. Vous dites que vous ne vous lassez pas, Bertrand Tavernier, par exemple, de revoir Manon des Sources.
Oui, absolument. Il y a énormément de films de Pagnol. Alors, évidemment, j'aurais pu citer la trilogie, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est très, très connu.
Oui.
J'ai voulu m'attarder sur des films qui sont moins célèbres, comme Geoffroy, qui est une merveille, qui est joué par Vincent Scotto.
Alors, je l'ai découvert avec vous,
oui.
grâce à vous,
oui,
Bertrand
oui.
Tavernier, Pagnol méconnu, Geoffroy,
oui.
Où le héros, un vieux paysan provençal, fait, dans la scène qu'on va entendre là,
oui.
une sorte de chantage au suicide, il est couché au milieu de la route.
Il y a longtemps qu'il est mort.
Je comprends, il sent déjà.
Qu'est-ce qu'il sent déjà? C'est toi qui sens mauvais, cochon.
Oh, je suis Marie-Joseph. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là?
Mais j'en sais rien. Geoffroy, qu'est-ce que tu fais, là?
Je vais me faire écraser par les automobiles.
Mais elles ne t'écraseront pas, les automobiles. Elles te verront de loin.
Et bien, quand je les entendrai venir, je me ferai tellement plat, tellement mince, qu'elles ne me verront pas.
Extrait de Geoffroy de Pagnol, 1933. 10 ans avant le néoréalisme italien, soulignez-vous, Pagnol tourne avec des acteurs amateurs parce que son Geoffroy, comme vous l'avez dit, qu'on vient d'entendre, c'est le compositeur Vincent Scotto, le compositeur aux centaines de chansons et aux centaines de succès.
Oui, oui, et il tourne en décor naturel, il n'y a pas un plan de studio.
Dans un village provençal.
Dans un village à La Treille. Personne n'est un acteur dedans. Et il y a un naturel dans ce film. Et ce n'est pas seulement la seule qualité. Parce que le propos de Pagnol, derrière la verve, derrière l'invention des mots, la cocasserie, elle est aussi, le propos, il est sérieux. Le film parle d'un paysan qui a vendu sa terre, mais qui, de manière obstinée et totalement absurde, illogique, ne veut pas qu'on touche à ces arbres qui sont pourtant morts depuis 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas donné un seul fruit. Et donc, il va menacer de se tuer. Et on parle de la mort, on parle de la pression de l'opinion publique, comme ça, à travers, on parle de sujets...
De l'exode rural aussi.
Oui, on parle... Pagnol sera un des premiers à parler des villages qui se désertifient.
Bien sûr.
Déjà, on dit toujours que c'est... On pense toujours à Pagnol avec la canne-bière et le côté de Rému et ouais. tout ça. Mais il y a autre chose. Il y a dans Manon des Sources, c'est l'histoire d'une famille qui a été assassinée.
Ouais.
Qui a été assassinée par des paysans âpres qui n'ont pas voulu révéler l'existence d'un puits qui aurait pu les sauver. Et donc,
et vous rendez justice au premier Ugolin qui
oui,
était Rélis.
Rélis qui est prodigieux, quel que soit l'énorme talent après dans le remake de là. Mais Rélis, c'est un acteur, mais dans ce film, mais d'absolument génial, qui n'a jamais reçu la moindre distinction.
On dirait qu'il ne joue pas, comme,
oui,
comme
oui,
vous dites.
Oui, oui.
Bertrand Tavernier, on va faire comme dans vos DVD, on va ajouter un bonus, on vous garde encore un peu pour évoquer d'autres étapes de ces voyages. Dans un instant.
Europe 1. 9h47 sur Europe 1, la suite de C'est arrivé cette semaine avec vous Patrick Cohen.
Avec Bertrand Tavernier qui nous offre une nouvelle série de voyages à travers le cinéma français qui nous donne envie de voir ou revoir ces classiques, ces films du patrimoine qui ont souvent gardé une force et une modernité étonnantes. Alors, ce sont des films, Bertrand Tavernier, qu'on ne voit plus guère à la télévision, sauf sur Arte ou France 5, parce que vous avez souvent entendu ça... les vieux films, les films en noir et blanc, ça n'intéresse personne. Oui. Plus personne.
Oui, on l'a entendu aussi beaucoup quand on a voulu faire notre festival à Lyon avec Thierry Frémaux, la Lumière.
Lumière, oui.
Oui, vous vous intéressez à des vieux films, etc. Ben oui, mais on a maintenant, on a 140 000 spectateurs.
Vous faites ça le comble chaque année, évidemment.
On fait ça le comble et il y a des gens qui viennent voir des films de 1934-35, des films dont ils n'ont quelquefois pas entendu parler, mais qui y vont. Je pense que la passion permet de surmonter en effet ces réticences. Et j'aimerais que les chaînes publiques fassent preuve d'un peu de passion. On se dit à un moment que le service public ne passera plus la grande illusion. Ouais.
Et c'est important, effectivement, vous avez raison d'essayer de faire découvrir aux plus jeunes générations cette mémoire du cinéma, ce cinéma de patrimoine, comme vous dites. Alors, dans vos films, dans cette série qui vient d'être publiée en DVD chez Gaumont, il y a des surprises, il y a des redécouvertes, des réhabilitations, parfois contre-courant des jugements critiques du cahier du cinéma. Je pense notamment à Henri Decoing que vous célébrez largement, vous avez célébré au dernier festival à Lyon.
Avec un succès énorme. Oui, je réhabilite, par exemple, certains films d'Autant Lara, qui est discrédité parce qu'il a rejoint
le Front National,
à la fin de sa vie. Mais y a aucun de ses films ne recoupe cette idéologie. Surtout, je voulais rappeler que Autant Lara est le seul cinéaste qui a fait, à une époque où l'avortement, défendre l'avortement était passible du pénal, il a fait deux films qui militaient pour le droit des femmes et pour le droit à l'avortement. Il a toujours été un cinéaste qui a défendu les femmes. Et il les a défendus dans le journal d'une femme en blanc et dans Une femme en blanc...
Avec Marie-Josée Natz.
Oui, et dans la suite, Une femme en blanc se révolte. Voilà.
J'ai été frappé, Bertrand Tavernier, par les portraits sensibles et nuancés que vous tracez de deux cinéastes, a priori pas très sympathiques, en tout cas qui n'avaient pas bonne réputation, mais qui nous ont laissé l'un et l'autre des chefs-d'œuvre, Julien Duvivier et Henri-Georges Clouzot, deux cinéastes de la noirceur, du pessimisme, qui ont souvent montré à l'écran des monstres, des méchants, mais de façon différente.
Hein. Oui, Duvivier était quelqu'un qui devait, de premier aspect, qui pouvait être rugueux, parce qu'il prenait le cinéma tellement sérieux, mais de manière tellement forte, qu'il ne voulait pas qu'on l'embête.
Duvivier, pour mémoire, on peut citer au moins trois grands rôles de Jean Gabin.
Oui.
La Bandera, Pépé le Moko. D'ailleurs, c'est une leçon de cinéma parce que vous avez retrouvé le remake américain. Et on voit, sans comprendre pourquoi d'ailleurs, on voit que la version française nous frappe infiniment plus.
Elle est beaucoup plus forte.
Troisième grand rôle de Jean Gabin aussi, Voici le temps des assassins, dans les années 50.
Grand chef-d'œuvre.
Très grand film. Et très noir, avec Daniel Delorme, absolument horrible.
D'une noirceur à côté, les films noirs américains, c'est parfois... J'ai pas envie de dire Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige est assez noire. Mais...
le noir et le blanc, le bien, le mal et ses nuances. Là, on passe à Clouzot avec une scène très célèbre du Corbeau de Clouzot avec Pierre Larquet et Pierre Fresnay.
Enfin, mon cher, tout de même, quand vous rencontrez une mauvaise bête.
J'en rencontre une chaque matin dans ma glace, en compagnie d'un ange. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais? Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté?
Quelle littérature? Il n'y a qu'à arrêter la lampe.
Arrêtez-la! Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante.
Larquet avec la lampe qui fait balancer dans cette salle de classe.
Et qui crée des zones d'ombre et des zones de lumière, qui est une démonstration assez foudroyante, qui est une... On peut dire que c'est presque aussi une sorte d'apologue sur la mise en scène au cinéma. Ouais. C'est avec la lumière, on peut changer tout à fait une approche, le sens de l'approche d'un plan.
Pourquoi ces films continuent de nous toucher, Bertrand Tavernier?
D'abord parce que je pense qu'ils étaient très 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 forts, qu'ils étaient... d'une certaine manière, sans toujours être des films naturalistes ou réalistes, ils étaient en prise avec les émotions, le ressenti de leur époque, et qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé. Quand vous avez des plans dans Le Salaire de la peur, que les gens ne remarquaient pas au moment de la sortie, des plans où on voit des champs ravagés par le pétrole, par tout ce que provoque la recherche de l'or noir, comme ça,
Il y a des plans aussi d'une cruauté qui nous saisissent encore aujourd'hui.
Oui, oui.
Je veux dire, montant au volant de son camion en train de d'écrabouiller Charles Vanel dans la mare, c'est quand même...
Dans une mare, mais en même temps, tout d'un coup, vous avez se surajoute maintenant les préoccupations écologiques qui n'existaient pas à l'époque et que tout d'un coup, qu'on découvre que Clouzot les avait, que Clouzot... Comme beaucoup de cinéastes, de même, j'ai dit que Lara était en avance sur la loi Veil. Clouzot aussi était en avance. Tout d'un coup, son film nous parlait d'écologie. Ce ne sont pas des films qui sont dans le formol. Ce sont des films où tout d'un coup, il y a des personnages de femmes qui nous parlent du statut des femmes. Chez Becker, par exemple, Falbala nous en parle. En dehors d'être un film si juste, que Jean-Paul Gaultier dit que c'est le film qui l'a poussé à devenir couturier. Bon, déjà, c'est un film, quand on dit que le cinéma n'a pas d'influence, il y aurait eu déjà cette influence de créer Jean-Paul Gaultier, c'est pas si mal. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces films nous parlent de sentiments qui restent éternels.
Bertrand Tavernier, Voyage au pluriel à travers le cinéma français. C'est un coffret Gaumont de 3 CD et de 8 épisodes. Merci d'être venu nous en parler, Bertrand Tavernier.
Merci.
Europe 1.
Et dans 5 minutes, Mediapolis sur Europe 1 avec Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick Cohen.
Au sommaire ce matin.
Au sommaire, tout ce que vous avez vu de médias politiques dans la semaine, quoi. Un président de la République qui s'adresse à un gilet jaune, un député qui trouve qu'ils ont été trop intelligents, j'en passe et des meilleurs, avec Roland Quirol, l'excellent politologue. Et si elle n'est pas en retard, qu'est-ce qu'elle n'est pas, n'est pas encore là, la jeune... Anastasia Colosimo.
Excellent. Mediapolis à 10h sur Europe 1. Moi, je vous retrouve demain après le journal de 9h avec Jean Pisani-Ferry, Corentin Célin, Mélanie Laurent et l'homme de Roger Rabbit et de Retour vers le futur, Robert Zemeckis, qui sort un nouveau film la semaine prochaine.
9h55 sur Europe 1.